Style FM, c'est tous les jours. Style FM, c'est toutes les semaines. Style FM, c'est tous les mois. Style FM vous accompagne toute l'année.
Coucou tout le monde, ici Nabossa sur Radio Quartier Libre et aujourd'hui nous sommes en direct de Neuville avec Amy.
Coucou tout le monde.
Pierre.
Bonjour à tous.
Arnaud.
Salut.
Gaël.
Bonjour.
Et Théotime.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
Et aujourd'hui, nous avons choisi une petite explication sur les Jeux Olympiques de Paris qui se produiront en 2024. Arnaud, tu nous as préparé une petite histoire des Jeux Olympiques mondialement connus. Peux-tu nous l'expliquer, s'il te plaît ?
Bien sûr. En 1894, le baron français Pierre de Coubertin fondait le CIO, Comité International Olympique. Par cette création, les Jeux Olympiques antiques organisés dans le centre religieux d'Olympie entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle après Jésus-Christ renaquirent de leurs cendres pour former les Jeux Olympiques modernes. Deux ans plus tard, en 1896, Athènes organisait leur première édition. Désormais, la tradition persiste et les Jeux Olympiques modernes, appelés Jeux Olympiques ou JO, se tiennent tous les 4 ans dans une ville ou une région préalablement choisie. L'attribution et la régulation des JO est gérée par le CIO, Comité International Olympique, sous les conditions de la Charte Olympique. Les Jeux Olympiques ont également évolué avec leur temps, d'innovation en innovation. D'abord réservés aux amateurs, les Jeux Olympiques se sont ouverts aux professionnels au fur et à mesure. De plus, désormais, la parité entre hommes et femmes est presque totale. Par ailleurs, des Jeux Olympiques d'hiver se tiennent tous les 4 ans depuis 1924 et leur première édition à Chamonix. Jusqu'en 1992, les Jeux d'hiver se tenaient la même année que les Jeux d'été. La prochaine édition des Jeux Olympiques d'été se tiendra en 2024 à Paris et ce sera la 33e Olympiade moderne. 32 sports seront au programme de ces Jeux, dont 4 additionnels, choisis par le comité d'organisation. L'escalade, le surf et le skateboard, comme à Tokyo en 2021, et le breakdance qui remplace le karaté. Les Jeux de 2024 et leur slogan « Ouvrons grand les Jeux » veulent innover. En effet, les mascottes, les friges, sont très originales et la parité totale est voulue entre hommes et femmes, et des pictogrammes représentant chaque discipline ont été changés. Plusieurs polémiques ont néanmoins entaché l'organisation, comme le surcoût lié à l'inflation, les critiques liées à la billetterie, ainsi que la question de l'exclusion ou non des athlètes russes et biélorusses. Cette édition aura lieu du 26 juillet au 11 août 2024 et réunira 206 délégations et 10 500 athlètes. Les 17e Jeux paralympiques se tiendront du 28 août au 8 septembre 2024 et les prochaines Olympiades d'été se dérouleront à Los Angeles en 2028 et à Brisbane en Australie en 2032.
Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation des Jeux Olympiques et de leur origine, Arnaud. Et maintenant, une petite chronique d'Amy sur le sport, sur un sport en particulier, le cyclisme.
Oui, donc bonjour à tous, c'est Amy sur Radio Quartier Libre. On se retrouve pour parler de cyclisme, bien sûr, mais aujourd'hui, on parlera du cyclisme au sein des Jeux Olympiques. Donc le cyclisme, il compte de très nombreuses et diverses disciplines qui témoignent à la fois de son ancienneté et de sa modernité. Le cyclisme sur route reste tout de même la plus ancienne discipline. C'est pendant le 19e siècle que la bicyclette connaît son grand succès comme loisir, avant que les premières courses se dessinent quelques années plus tard. En 1868, la notion de première course cycliste apparaît dans les parcs de Saint-Cloud à Paris. Très vite, des fédérations nationales voient le jour, et l'UCI, aussi appelée l'Union Cycliste Internationale, pointe le bout de son nez en 1900 tout pile. Au total de toutes les disciplines de cyclisme existant aux Jeux Olympiques, dans le tableau des médailles, les Français sont premiers, et ont ramené notamment 42 titres olympiques. Alors, quelle discipline on va expliquer en détail ? Allez, le VTT, parce que c'est ma préférée. Donc le VTT, c'est du vélo tout-terrain, donc le V pour vélo et les deux T pour tout-terrain. Donc les athlètes qui en font sont des VTTistes, je le rappelle car j'ai appris il y a quelques jours que personne ne connaissait l'existence du mot VTTiste. Reprenons les choses sérieuses. L'histoire du mountain bike en anglais commence dans les années 1970, donc avec la volonté de certains cyclistes de sortir de la traditionnelle route pour s'aventurer sur tout type de terrain. Dès les années 1990, les premiers VTT sont fabriqués, avec comme objectif principal résister au choc. Dans les années qui suivent, la pratique se développe énormément et les premières courses arrivent. À noter que les premiers championnats du monde se feront aussitôt en 1990. Aux JO, le VTT dispose de deux courses, les plus connues, le cross-country homme et version femme, aussi appelé le XCO. Il s'agit en fait d'une course en ligne, donc avec plusieurs tours de circuit. Le terrain est soit montagneux ou accidenté. Il y a des obstacles techniques tels que des rondins, des bosses ou encore des pierriers. Le départ se fait groupé et la distance est d'environ 30 à 50 km. Soit à peu près une à deux heures de course très intense et pleine de rebondissements. Bon, je vous vois venir, oui, mais Amy, c'est quoi la différence entre un VTT et notre bonne vieille bicyclette ? Bah c'est pas bien compliqué, déjà le VTT il a une suspension à l'avant, donc une fourche pour amortir les chocs au niveau du guidon, et parfois aussi une suspension à l'arrière pour amortir au niveau de la selle. Donc l'indispensable, ça reste quand même les crampons sur les roues pour bien adhérer au sol. D'ailleurs maintenant les roues sont en 29 pouces et les guidons sont très 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 larges pour assurer une bonne stabilité. Entre nous, par expérience, je suis bien contente d'avoir mon petit vélo, comme je l'appelle, avec ses petites roues en 26 pouces et son petit guidon comme ça se faisait avant. Je trouve ça plus maniable et surtout ça passe partout. Moi, je reste pas coincée entre deux arbres. Vous inquiétez pas, certains se reconnaîtront. Revenons-en à nos Jeux Olympiques. Le mountain bike entre en scène à Atlanta en 1996. Dès le départ, il a la parité avec une course masculine et féminine, comme dit précédemment. Depuis son entrée au JO, la domination est française, donc avec trois titres chez les hommes et un chez les femmes, ainsi que de nombreux podiums. Parmi les trois titres masculins, il y a celui de Miguel Martinez, donc à Sydney, troisième lors de la première édition à Atlanta. Donc Miguel Martinez qui n'est autre que le papa de Lenny Martinez, la jeune pépite tricolore de 19 ans de la Groupama FDJ, qui se destine à de très beaux succès en montagne, mais lui sur route. À Paris, les épreuves se tiendront le 28 et 29 juillet sur la colline d'Elancourt, donc qui est le point culminant de la région parisienne. Donc c'est à Saint-Quentin-en-Yvelines où quelques rues plus loin, le cyclisme sur piste enflammera le Vélodrome national. Moi, par magie, j'ai mes billets pour les deux épreuves, les fameux billets à 24 euros. On peut dire merci papa. D'ici là, on a le temps de réfléchir à nos pronostics, même si entre nous, j'ai déjà ma petite préférence. Celle qui a tout gagné partout, qui est championne du monde dans presque toutes les disciplines possibles et imaginables du vélo. Il lui manque plus qu'une chose, un titre olympique. Elle rêve de la plus haute marche à Paris. Je parle bien sûr de l'immense championne française Pauline Ferrand-Prévot. Juste des petites statistiques comme ça, lors des derniers championnats du monde, qui se tenaient d'ailleurs en France, Auger. Sur 15 courses, l'équipe de France en a remporté 5, dont l'exceptionnel doublé de Pauline Ferrand-Prévot. Les tricolores n'apparaissent pas juste sur 6 podiums. Et petit supplément du chef, en VTT de descente homme, les Français ont tout simplement fait 1, 2 et 3. Alors malheureusement, il n'y a pas toutes ces épreuves aux Jeux Olympiques, mais voilà. C'était juste pour vous montrer à quel point la France domine le VTT.
Ben merci pour cette présentation de ce sport qui te tient beaucoup à cœur. Maintenant, revenons-en à nos Jeux Olympiques. On a remarqué un petit problème au niveau de la billetterie. Gaëlle, peux-tu nous dire ce que tu en penses ?
Bah, en gros, c'est, si j'ai bien compris, un espèce de truc sur Internet, là, mais genre, faut que t'ailles dans les librairies, un truc comme ça, non ?
Pas exactement. Pour avoir des billets pour les JO de Paris 2024, il faut se rendre sur le site officiel des JO et créer un compte à l'aide d'une adresse mail. Ensuite, il faut s'inscrire pour les tirages au sort des premières phases de vente.
Donc, il y en a deux. Oui. Deux premières phases de vente par tirage au sort.
La première, celle des parcs sur mesure, est déjà passée. Donc, on était tiré au sort. Et lorsqu'on était tiré au sort, on avait 48 heures pour acheter des billets sur le site. Et ensuite, il y aura une deuxième phase de vente à partir du 11 mai. Les inscriptions sont terminées et il y a environ 15 millions d'inscrits déjà. Donc là aussi, ça sera par tirage au sort, mais ça sera uniquement des billets à l'unité.
Et pour les grandes finales ?
Pour les grandes finales, les premiers billets seront disponibles lors de cette phase de vente, car ils n'étaient pas disponibles pour la première phase de vente, celle des packs sur mesure.
Pierre, du coup, t'en penses quoi de tout ça, des polémiques, des prix ? Enfin, dis-nous ce que t'en penses.
Bon, les polémiques, je pense qu'il n'y a rien de forcément intéressant à y revenir, mais je ne sais pas si ça constitue une polémique. Vous auriez remarqué en ce moment que, enfin, il y a du moins quelques semaines, on parlait là justement de ces places à 24 euros qui séduisaient beaucoup de Français. Mais il s'avère qu'au fond, ces places promises par les organisateurs sont au fond rares quand on se retrouve sur donc, la plateforme d'achat, comme nous a parlé
Arnaud.
Arnaud, merci. Ils en promettaient 1 million, mais la moitié d'entre elles ont déjà été réservées par l'État et les collectivités, oui. Donc je pense que ça peut en frustrer quelques-uns. Bon, alors après, évidemment, il y a eu des euros internautes qui ont été tirés au sort, mais il faut quand même très souvent débourser plus de 100 euros pour un billet. Par exemple, l'athlétisme et l'escrime, c'est quand même 195 euros minimum qu'il faut lâcher pour des qualifications.
Et ce n'est que des qualifications.
Et ce n'est que des qualifications. Alors, et
la note grimpe vite si on y va à plusieurs.
Tout à fait. Et puis alors, face à cela, à la polémique, comme tu disais, justement, vous avez Tony Estanguet, là, qui s'occupe justement de tout cela.
Qui est le président des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Du comité d'organisation.
Merci de ce détail. Notamment parler des JO à Londres, qu'on n'est pas plus au fond cher qu'à Londres en 2012. C'est le cas aux Coupes du Monde de foot et de rugby. Ce sont les mêmes prix.
Donc, ouais, dans ce cas. Après, c'est comme pour les trucs de foot là, et compagnie. Si jamais t'es pas contente, t'as qu'à regarder sur la télé. Hein.
Oui, mais au fond, c'est quand même un événement qui est mondial.
Et majeur.
Majeur, en effet, qui va représenter la justement France. La France et sa culture. Et un côté sportif, un peu compétitif qu'on le veuille ou non.
Et juste pour revenir sur Londres, donc Tony Estanguet a dit que c'était le même prix que Londres. En fait, c'est un petit détail, mais c'est faux parce que la. Les billets les moins chers à Londres, c'était 23 euros. Ce n'est pas une grande différence, oui. Mais que le président du comité dit ça, ça a fait un peu tâche.
Forcément. Puis après, notamment, il rajoutait qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes ravies, mais que de toute façon, on ne peut pas servir tout le monde. Et je crois
on
qu'au
peut
fond,
pas satisfaire tout le monde, tout à fait.
Oui. Il a raison. Est-ce que tu disais qu'il y a combien de places qui ont été vendues? 4 millions
Non, 4 non, millions non. d'inscrits pour la seconde phase.
4 millions
phase,
d'inscrits, bon. Bah.
Mais lors de la phase 1, il y avait environ 3,5 millions de billets qui ont été mises en vente.
Donc c'est déjà
qui ont été vendus, qui ont été vendus.
C'est même vendu, oui.
C'est déjà parce considérable.
Et l'État en met 10 millions, je crois.
Et par contre, sur les billets à 24 euros, donc pour la première phase de vente, sur les 500 000 billets déjà...
Disponibles, ceux qui sont disponibles pour le grand public.
Eh bien, il y en a déjà 400 000 qui ont été vendus à 24 euros pour la première phase de vente.
Ah oui, donc il n'en reste pas beaucoup.
Attends, bah, il en reste
pas,
que 100 000.
C'est pas énorme, 4-5 000 sur 3 millions.
Non, oui. C'est les billets à 24 euros, donc c'est sur 500 000. Donc ouais, dire qu'il n'en reste plus que 100 000 pour la deuxième phase.
C'est pas énorme.
Parce que l'essentiel... Ouais.
Moi, je pense que la plus grosse polémique de ces JO, c'est que tout est fait sur Internet maintenant. Et que
oui.
même
oui, c'est ce vrai que c'est un
les
problème.
Personnes qui n'ont pas connu Internet, c'est un scandale. Je pense à...
Tout simplement, les personnes qui n'ont pas couramment accès à Internet.
Qui n'ont pas couramment Internet.
Qui
savent très mal l'utiliser parce qu'on n'apprend pas.
Non, mais qui savent très mal l'utiliser aujourd'hui, il faut qu'on soit honnête. C'est la plus grosse polémique, vous exagérez à peine. C'est une minorité de personnes qui ne savent pas utiliser Internet aujourd'hui.
On évitera le mépris, s'il vous plaît.
Oui.
C'est pas du mépris, mais je veux dire, c'est pas la majorité. C'est comme.
La majorité,
c'est
pas la majorité. Il faut le compter.
La plupart des événements.
Il y en a quand on âge qui ne seront pas capables de s'inscrire tout seuls. Sache-le.
Tu disais quoi, Arnaud ?
Désormais, la plupart des événements sportifs utilisent quand même des plateformes Internet.
Pas forcément que des événements sportifs, d'ailleurs.
Mais par exemple, la Coupe du Monde de rugby. Ça se passe majoritairement sur Internet. Donc il n'y a pas que pour les JO.
Mais là, ça se passe pas majoritairement, c'est que sur Internet.
C'est vrai.
Mais après, c'est pas. Alors, il n'y a pas une vente papier qui va se faire après, non ?
Non. Enfin, c'est pas prévu en tout cas.
Puis c'est écologique aussi. Bon,
tout à fait.
Bon côté.
Ouais. Je suis désolée d'arrêter ce débat impressionnant et intéressant maintenant, mais on va devoir passer à une pause musicale avec Frérot de la Vega, Le Chant des Sirènes.
Enfant des parcs, gamin des plages. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'oublie moi. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne.
chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Les sirènes me replongent en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire.
FM, votre radio de proximité.
Bonjour à tous, on est toujours sur Style FM avec Amy.
Oui, tout à fait. Donc moi, je suis en seconde et je suis en seconde générale et je fais l'option Histoire des arts.
Et si tu peux nous présenter tes spécialités? Non, tu n'en as pas.
Ben non, vu que je suis en seconde, j'ai pas encore de spécialité.
Et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui ne va pas avec l'école pour toi?
Bah moi ça me va à peu près, mais je sais que vous, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Par exemple, Nabossa.
Ben du coup, c'est Nabossa sur Radio Quartier Libre encore. Je suis en seconde générale dans la même classe qu'Emmy et je suis aussi en histoire des arts.
Avec Pierre.
Donc Pierre Broussard, en classe de première, je suis donc le plus vieux des six aujourd'hui.
Le doyen.
Donc, très aimable à vous. À toi, pardon. Donc je suis en première, donc 5. J'ai comme spécialité humanité, littérature et philosophie, histoire, géopolitique, sciences politiques et enfin sciences économiques et sociales. Et je suis les options de latin et grec.
Super. Arnaud, si tu veux bien te présenter.
Je suis en seconde générale et technologique et je suis en section européenne anglais.
Très bien. Et Gaëlle ?
Bonjour, donc moi c'est Gaëlle encore et moi je suis en troisième, je suis donc le plus jeune ici.
Et moi-même, Théotime en seconde. Alors, on va commencer ce débat sur le scandale de l'école, qui est le sujet à traiter aujourd'hui. Donc, je vais vous dire des choses, ce qui ne va pas pour moi à l'école.
Et on
réagit. Et après,
vous allez réagir dessus.
Pardon oui. Pour cette hésitation. Alors, pour moi, ce qui ne va pas à l'école, c'est qu'on n'a pas assez de concret et trop de pratique. Qu'est-ce que vous en pensez,
Pierre?
Trop de concret et trop de pratique.
Pas assez de pratique.
Ah, pas assez de pratique. Trop de concret ou plutôt trop de théorique?
Trop de théorique.
Vous trouvez qu'il y a trop de matière, donc qu'il y aurait au fond peu d'intérêt pour notre avenir?
Oui, totalement.
Je suis d'accord, surtout que vous êtes en seconde générale. Je pensais la même chose que vous l'an dernier. En première, à mon avis, vous trouverez plus, on va dire, votre intérêt dans les matières suivies.
Parce que c'est plus des matières qu'on a choisies, voilà. Au fond, avec les spécialités.
Mais
et tout ça.
Mais qu'on aime. Je tendrais quand même à dire qu'on est en seconde générale, ça porte son nom, on doit quand même suivre une formation encore générale. Voilà. On a de la physique, on a des maths, on a du français, enfin, tout ce que, en soi, je détestais. Mais,
c'était
dites-vous,
une seconde générale.
C'est une seconde générale. Et surtout, ça n'a pas d'enjeu. Vous pouvez avoir 4, 6, 8 en maths, ça ne va pas non plus vous coûter cher pour votre avenir. Profitons-en.
Je pense que ce qu'il voulait dire par là, c'est que plus de pratique et moins de théorique, logiquement, c'est plus accorder d'importance aux stages. Parce qu'en seconde générale, moi je vois bien, on ne nous propose pas de stage, même si on en cherche, on n'est pas très sûr d'être accepté.
On peut en faire, on a la possibilité de faire.
Aller en pro.
Mais l'établissement ne nous en propose pas.
En fait, on se débrouille par nous-mêmes.
Oui, c'est ça.
Des stages.
C'est obligatoire.
Comme troisième ou des stages comme
oui,
il y aurait,
oui, des stages comme
d'entreprise.
Troisième.
Ouais,
voilà. Des stages comme troisième, oui.
Oui.
C'est-à-dire qu'en troisième, on avait un stage obligatoire et là, on n'a pas de choses obligatoires, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui, et puis même au final, en troisième, le stage obligatoire, il sert un peu à rien dans le sens où c'est pas en une seule semaine que tu vas faire grand-chose, en fait.
C'est vrai. Ça découvre pas un métier en une semaine.
C'est ça.
Et puis surtout qu'au lycée, on n'apprend pas des choses qui pour... enfin, on apprend des choses certes qui pourraient nous être utiles, mais par exemple, il y a des choses
genre un exemple,
oui, quelque chose, ça m'intéresse.
Par exemple la physique, non?
En physique, oui. Les
3 heures de physique.
Tout ce qui est genre vecteur, volume, etc.
Oui.
En soi, ça va pas nous servir pour la vie
c'est
totale.
C'est de la culture.
C'est de la culture générale.
Je sais comment
ça sert à améliorer sa réflexion.
C'est vrai.
Ça sert à améliorer sa réflexion, à savoir réfléchir, à avoir un esprit critique.
Je sais réfléchir. Je sais que l'oxygène et du soufre, ça fait une explosion. Ça sert à rien si tu veux pas devenir physicien. Je suis désolée, mais il y a des trucs, franchement.
Mais après, je rappelle quand même que c'est une seconde générale, donc il faut faire un peu de tout quand même.
Certes,
on peut pas dire que ça ne nous sert pas dans l'avenir parce qu'on n'est pas encore dans l'avenir déjà. Et puis ça dépend de chaque personne parce que toi, par exemple, t'aimes pas la physique chimie. Il y en a qui détesteront le français. Enfin, ça dépend de chaque personne.
Ouais, mais ça dépend en fait des goûts de chacun. Oui. Sauf que on peut pas. Enfin, la France a pas. Enfin, personne ne peut choisir des classes selon les options de tout le monde. Sinon, ce serait interminable.
Hyper compliqué,
impossible.
Ouais,
ce serait interminable. Mais vraiment, que l'établissement scolaire nous propose un petit peu plus de stages ou un peu plus de mise en pratique. Par exemple, nous, je vois bien en SES, donc sciences économiques et sociales, on fait que on fait de la théorie. On voit pas des choses.
Et tu voudrais faire quoi en pratique? Ça, vous le verrez en première. Hein.
Et des cours de comptabilité,
par exemple. Ouais, c'est ça, des cours de comptabilité, c'est-à-dire nous apprendre à gérer une fiche de paye,
nous
expliquer ce que c'est que la vie dans la société.
C'est ça, totalement.
On le fait pas, à ton avis.
Mais ça.
Bah on l'a eu fait à une époque.
C'est en seconde.
Je termine. On l'a eu fait à une époque. Je sais que ça date vraiment, mais à une époque, même si c'était un peu sexiste, on apprenait aussi à cuisiner, aux garçons à gérer les factures, à gagner de l'argent.
Je pense est-ce que tu voudrais qu'on remette, par exemple, les cours de cuisine, de bricolage, de...
Ouais, mais ça tu vois, un goût, mais de tout le monde, genre mélangé, voilà, genre des cours de cuisine, des cours de comment gérer son électricité, comment gérer sa compta, comment gérer la vie,
Pierre. On va où, franchement, si on remet des cours de cuisine, pourquoi pas de la couture, pourquoi pas de la
danse? Non, mais le savoir-vivre minimum pour pouvoir vivre dans la vie courante, quoi.
Pour l'instant, on a quel âge? 16 ans, 17 ans. On va pas.
Ou
15, oui, en effet. Il faut qu'on ait une formation qui soit pluridisciplinaire. Et après, en première, vous verrez que ce que tu parlais là de tes fiches de paie, ainsi de suite, tu le verras en première, en terminale. Mais là, vous êtes en seconde. On
le voit en première.
Oui. Après,
vous le voyez un peu succinctement, mais on le voit
peu.
Plus léger. Oui,
ça se ressent aussi dans les résultats. Si on compare les résultats d'il y a 20 ans et ceux de maintenant,
tout à fait.
Ce qu'on voit maintenant, nous, à l'âge qu'on a aujourd'hui, eux, ils le voyaient en collège.
Mais oui.
Parce que l'éducation nationale a quand même baissé le niveau.
Tout c'est sûr,
vous avez raison. Le bac est beaucoup plus facile que
maintenant, je crois, si je me souviens bien, c'est 80% de réussite au bac.
Plus de 90,
c'est
même.
C'est plus de 90.
Et puis, vous avez raison dans certains cas, c'est qu'à une époque, remarque, dis donc,
nos
parents.
C'était il y a 20 ans.
Ils apprenaient des choses, je pense, qui étaient plus essentielles, ce qui faisait que quand on sortait notamment de CM2, hop, on savait compter, écrire, lire. Il y en a en troisième, ils sont... Est-ce qu'au bac de français, vous trouvez normal qu'on nous fasse lire un texte pour vérifier si on sait prononcer et mettre le ton sur un texte à 17 ans?
Non.
Pour certains qu'en ont 18, c'est lamentable.
Oh, vraiment?
C'est pour ça que je dis qu'en fait, ils ont tellement baissé les niveaux que maintenant, ils nous apprennent plus à faire les choses essentielles.
Surtout,
pour
on a des matières qui sont peut-être en effet... peu utile. 3 heures de physique chimie pourrait très bien nous mettre 1 heure de physique et nous rajouter 2 heures de maths et de français.
Oui, mais après,
de
ça, c'est toujours la même chose, ça dépend des personnes. T'as une autre idée, du coup, t'es au team quelque chose d'autre.
Une autre idée, oui, à développer ensemble. Par exemple, ce qu'il faudrait rajouter pour moi, c'est le SNU obligatoire.
Ah,
alors, explique ce que voilà.
Alors, le SNU, je vais l'expliquer.
Non.
Le SNU, c'est
le service national
universel. Service national universel, exactement. Et c'est 2 semaines, en fait, qu'on passe à l'armée et. Ils apprennent
à l'armée, ça peut être
nous apprend les cordes de métier.
C'est l'armée civile entre guillemets.
Voilà,
en gros,
civile.
C'est-à-dire qu'on nous apprend, si je me souviens bien, c'est tout ce qui est débrouillardise personnelle et autonomie. On apprend énormément de l'autonomie au SNU. Et je sais que ça, je suis d'accord. Non, pas encore, mais je le fais cet été. Je suis d'accord avec toi qu'ils devraient nous le mettre obligatoire parce que jusqu'à maintenant, c'était une journée obligatoire à partir de ses 16 ans. Pour pouvoir passer le bac,
c'est la journée
par exemple.
Du citoyen.
Ouais, voilà, la journée citoyenne. La journée citoyen, pardon.
Journée citoyenne.
Sauf que le SNU, ça nous apprend plus de choses qu'on pourrait apprendre en une journée. Je sais pas si vous êtes d'accord avec
moi. Ouais, mais pour moi, ça serait.
Est-ce que quelqu'un autour de cette table a fait le CNU ou pas?
Non.
Ok, d'accord.
Personne peut n'en parler.
Mais vous avez peut-être entendu des expériences. Moi, tous ceux dans ma classe qui l'ont fait, j'ai des retours formidables.
Oui, moi aussi,
j'ai eu un retour formidable. Toutes les personnes que je connais qui me l'ont dit, je pense qu'ici, on peut être tous d'accord et mettre tous nos amis en commun. Ils sont, ceux qui l'ont fait, ils sont contents de l'avoir fait. Parce que
c'est une expérience. Hein.
Ça dépend. Il y en a qui sont contents, il y en a d'autres qui ne sont pas contents.
Après, c'est toujours la même chose.
Les humains, je pense
que c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que je dis
ça. Pourquoi vous voulez qu'il soit obligatoire?
Un peu plus de discipline. Il n'y a plus de respect en fait au lycée.
Ouais, donc à ce moment-là, c'est qu'il
trouve. Il n'y
a pas d'autres moyens.
On est à Poitiers. Donc
Ouais, non, mais à ce moment-là, c'est juste. Si on s'était logique, il faut juste foutre les cancres et c'est nu. Et puis après, le reste, allez hop là, tu pars quoi.
Non. Selon ta logique. En fait, ce qui serait bien pour le SNU à mettre obligatoire, c'est qu'il apprend le savoir-vivre.
C'est social un peu aussi,
ça apprend, c'est du social, ouais. Ça apprend la vie en société, ça nous apprend des choses qu'on ne nous apprend pas au lycée. Certes, au lycée, on nous apprend les bases de la société avec la politesse, ça s'apprend dès la maternelle.
Ça rejoint un peu le côté pratique, non?
Sauf que, c'est un côté pratique, social.
Mais du coup, Nabosta, plutôt que de mettre le SNU obligatoire, est-ce que ça serait pas plutôt intelligent de gérer quelques heures de cours en trop pour faire justement des cours de vie commune, comme je l'ai dit tout à l'heure? Comme ça, il n'y a pas de SNU obligatoire à prendre sur nos gens.
Ce sera la même chose, de le faire pendant deux semaines ou le faire un petit peu toute l'année.
Voilà,
c'est la même
ça, mais je pense que c'est plus intelligent de le faire comme ça, en fait.
Si tu regardes dans notre établissement, Gaël, nous, les secondes et les premières, je crois, Pierre, tu peux me contredire si j'ai tort, mais on a deux jours de EMC. Donc, enseignement moral et civique.
C'est pas normal. En seconde, oui, alors en première, vous aurez deux heures, en effet, de décembre, je crois, à février, enfin ça dépend les périodes et pour chacun, mais on aura de toute façon 5 ou 6 cours d'EMC et c'est des séances de 2 heures et on sera évalué d'ailleurs par des euros à la fin. Enfin, j'ai déjà été évalué.
Et Nabossa, je te le dis, c'est du vent. Nous, normalement, on a de l'EMC. Tu sais ce qu'elle a fait, la prof? Hop là, je vous passe des fiches, on saute l'EMC. Vous avez qu'à lire les fiches vous-même.
Mais c'est ça le problème, c'est qu'au lycée, on nous apprend pas la vie en société, donc s'ils enlèvent des cours.
C'est vrai.
Ce serait pas logique.
Le MC, c'est assez important et on n'en fait peut-être pas assez.
Alors, si je peux rembrayer le pas et qu'on passe un peu par la suite.
Un autre débat.
Alors, est-ce que vous pensez que les spécialités aujourd'hui sont vraiment importantes et obligatoires?
Oui, elles sont obligatoires. Enfin, importantes. Il faut en choisir.
Oui, elles sont obligatoires.
De ce que j'ai compris, les spécialités, c'est important, genre, parce que c'est quand même une classe à part entière au bac. Mais après, est-ce qu'elles servent réellement quelque chose? Ça, c'est un autre.
Pour entrer dans les écoles, les universités, tout ça, si t'as pas pris les bonnes spécialités, c'est compliqué.
Ouais. Si tu veux rentrer en école de littérature et que tu fais SVT physique et techno. T'arrives en école de littérature, t'es en mode écoutez, qu'est-ce que je fais là?
Les spécialités, vous n'avez pas été confronté, évidemment que c'est utile. Heureusement qu'on a ces spécialités. Moi, je dis que ce système-là, qui est souvent critiqué, il est formidable. On reproche justement aux élèves de ne pas pouvoir choisir assez leur matière. Vous allez les choisir. Alors, le coefficient, en effet, est élevé. Il faut éviter de se louper, de se planter. Puis en terminale, quoi, F16, donc il ne faut pas se louper, je suis d'accord. Mais vous verrez que ces matières, elles sont très intéressantes et enrichissantes pour chacun. Vous verrez.
Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que. Non, mais c'est pas.
Après, il y a un peu de choix quand même.
Il y a peu de choix, mais enfin, vous rigolez.
Excuse-nous, tout le monde. Ce que je voulais dire, en fait, avec les spécialités, c'est que, à mon avis, il faudrait plus, en fait, se fier sur les résultats des spécialités et des spécialités, par exemple, pour pouvoir avoir une filière sur Parcoursup, par exemple, ou sur les notes plutôt que de.
On peut en parler de
Parcoursup.
Ouais,
bonne idée.
Je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'on n'est pas, nous, on n'est pas encore dedans.
Oui, il y a seulement Pierre qui est en première qui.
Je ne l'ai pas encore d'ailleurs utilisé, ce sera en terminale. Ah, on peut que parler d'expériences vécues pour le peu, souvent affreuses d'ailleurs, de la plupart de nos amis.
Parcoursup, bon. Notre meilleur ami.
Bon, vas-y, continue, Pierre.
Enfin, après, on parle de Parcoursup toujours là?
Oui. Vas-y, on parle de Parcoursup.
Niveau Parcoursup,
expliquez
ce que c'est.
Oui,
c'est ça, pour ceux qui les
auditeurs
qui
ne savent pas. Parcoursup, c'est une plateforme
après
où chacun, après le bac, où chacun fait ses vœux concernant l'orientation. Il choisit, par exemple, des prépas scientifiques, des universités, des écoles de commerce. Enfin, il y a plus de 10 000 établissements proposés.
J'ai une question, moi, Pierre.
La seule plateforme qui, si tu veux faire du commerce, te propose de mécano, d'ailleurs, ça dit rien.
Ça dépend de tes résultats. Il faut que tes spécialités soient cohérentes. Il y a des classements. Certains disent que c'est malsain justement parce qu'il y a le contrôle continu qui compte. Après...
Oui, du coup, c'est quoi, Pierre? Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que moi qui connais rien, qu'est-ce qui compte dans la
Parcoursup? Dans vous aurez notamment ce qu'on appelle des fiches de vœux où vous devrez, pour chaque école à laquelle vous avez postulé, vous décrire avec des caractères limités, tout simplement.
donc vous vendre en quelque sorte vos activités, si vous faites du sport, de la musique, enfin tout cela. Donc il faut avoir un parcours, on va dire, assez atypique.
Et les notes sont importantes.
Ah bah, les notes sont importantes.
Excusez-moi de vous interrompre, on va faire une petite pause musicale avec les démons de minuit.
Ah oui, beaucoup de cohérence.
FM, votre radio de proximité.
On est toujours sur Style FM et on va continuer notre émission entre jeunes. Alors, on va pouvoir faire un tour de table et parler chacun de notre expérience vécue au lycée.
Donc, en dehors des cours, c'est ça ?
En dehors des cours.
Rappelez notre établissement. Donc, on est à Isaac de l'Étoile à Poitiers. Et du coup, je pense que ça ne vous dérange pas si je commence
préciser
l'établissement. Nous, au lycée Isaac de l'Étoile, on a ce qui s'appelle des AP, c'est-à-dire...
des activités personnalisées,
des activités
périscolaires,
merci Pierre, où on peut choisir, modéliser notre emploi du temps, c'est-à-dire que de 8h à 15h15, on a des cours réglementaires, français, maths, histoire, les cours obligatoires.
Le tronc commun, ce qu'on appelle le tronc commun.
Ce qu'on appelle le tronc commun, merci. Et ensuite, on peut choisir nos activités. Donc là, par exemple, nous, élèves, on a choisi l'AP radio, c'est pour ça qu'on est ici. Mais il y a plein d'activités, karaté,
musique, culture, il y a plein de choses.
Et donc, on peut choisir, on peut modéliser notre emploi du temps.
Ça dépend de toute personne, en fait.
Ça dépend de nos goûts, nous.
Il y a aussi du soutien pour les élèves plus en difficulté ou des aides aux devoirs aussi.
Il y a du yoga.
Des professeurs.
Il y a du yoga.
Des jeux vidéo.
Il y a de la radio, là, comme on fait en ce moment. Non, on est bien servi quand même. On a de la chance en France d'avoir ça.
Il me semble qu'on est dans un des. Enfin, on est le seul établissement en France qui fait ça, il me semble.
Il faut le rappeler, c'est un lycée privé
c'est
aussi.
Oui, on est dans un lycée privé. Donc, les lycées publics, je ne sais pas, je n'ai pas d'expérience dedans. Donc, je sais que c'est compliqué là-bas.
Oui.
Mais
oui.
Nous, on a quand même beaucoup de chance. On peut modéliser notre emploi du temps, comme je l'ai déjà dit. On peut choisir des activités qui nous plaisent. C'est ça qui est bien.
Alors, si on continue le tour de table avec Arnaud.
Moi, je suis très content de l'AP Radio et je trouve qu'on a vraiment de la chance d'avoir des activités comme ça parce que ça permet de sortir un peu des cours traditionnels et de nous ouvrir à d'autres choses, d'être intéressés par autre chose et d'avoir moins la pression des cours, etc. Donc c'est vraiment bien.
Et donc pour toutes les AP qui ne sont pas pédagogiques, qui sont en dehors...
Périscolaires.
Oui, voilà, qui sont périscolaires. Donc c'est le foyer qui les organise. Donc, et donc la directrice du foyer, donc, c'est Marie Jacquet, donc, qui est avec nous. Et on la remercie pour tout ce qu'elle fait, d'ailleurs, pour tous les projets qu'elle lance. Donc je vous
c'est grâce à elle qu'on est ici.
C'est tout grâce à elle qu'on est ici, ouais.
Donc merci à elle.
Merci Marie, merci. En tout cas. Donc,
Qui organise notamment la soirée des talents. Enfin, où justement, on peut, là pour le coup, on parlait de concret... concrétiser nos talents, les montrer au public. Généralement, au fond, sur 1500 élèves, je ne suis pas sûr que tant que ça en profite. Donc,
et c'est bien dommage.
Et c'est bien dommage. Après, je ne sais pas s'il y a un foyer dans tous les établissements. J'en doute.
En général, c'est des maisons des jeunes, mais c'est le même
principe. Ah oui, c'est le même principe. Mais c'est sûr que, moi, je me souviens... Il y a une AP Parlons Chien. Il y a... voilà, on a vraiment des AP...
Je crois qu'il y avait une AP pour faire un laser game.
Tout à fait. Enfin...
Un escape game.
Donc, quand même...
C'est vraiment très, très divers.
Ceux qui me disent, on n'a rien à faire, les AP, l'activité périscolaire, elles sont nues, elles ne sont pas diversifiées, je leur dis, déjà, commencez à lire les messages École Directe, on vous met par PDF toutes les activités proposées.
Après, on a de la chance d'avoir un lycée comme ça.
Oui, c'est ça, nous, c'est on a vrai. Un lycée comme
tous
ça.
Tous les lycées comme ça en France...
D'expérience. J'ai un ami qui est dans un lycée public, il n'aime pas les cours, et bah, il est mal, quoi. Alors que ici, bah oui. Même si t'aimes pas les cours, tu peux te dire bah après les cours, Gaëlle, j'ai des trucs qui me plaisent. Oui. Mais les AP, c'est incroyable parce que moi j'ai fait les deux. J'ai fait collège privé et collège public. C'est le jour et la nuit, hein, vraiment. Quand t'as des non mais vraiment quand t'arrives après les cours, tu te dis t'as des AP que j'ai choisi. C'est mon plan scolaire, c'est cool quoi.
Tu préfères le privé.
Le privé, je sais pas, mais Isaac, c'est bien.
Oui, il faut et pas.
Privé, on, ouais, on va pas mieux, rentrer ouais. Dans.
On fait pas une opposition entre le public et le privé. On fait des oppositions entre les établissements.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà.
Et si vous avez d'autres choses à rajouter sur, pour critiquer l'école ou améliorer et...
Alors critiquer, ce serait trop long. Améliorer, ouais. Là...
Critiquer, c'est facile, mais améliorer...
Là, on vient citer...
Oui,
on vient
proposer
citer,
des choses pour améliorer,
proposer des choses pour améliorer l'école.
Qu'on s'engage aussi, il y a même des AP en faveur de l'écologie, par exemple, où on ramasse les déchets...
Il faudrait que les jeunes s'engagent plus.
Oui, alors là, on parlait du SNU, mais même qu'on profite un peu de ce qu'on a dans notre établissement...
Ce qui nous est proposé.
Et que ça se généralise. On peut faire le SNU, ceux qui souhaitent le faire... On le fait. Ceux qui veulent passer là leur BAFA, ils le font, ces activités le justement BAFA. Périscolaires. Oui, alors le BAFA, c'est pour s'occuper, excusez-moi,
des enfants
dans des centres,
dans des
colonies. Voilà, on a quand même en France un système pour nous, qui coûtons cher, comme on nous le rappelle d'ailleurs parfois. J'estime qu'on a le droit d'être heureux, puis on a parfaitement le devoir d'être heureux en honorant tout ce qu'on nous propose de faire.
Mais si c'était pas le mot de la fin, ça.
Résulté. C'était une belle citation. Voilà. Et juste pour conclure, quand même, n'oubliez pas que là, j'étais avec des amis là juste avant de venir. Ils me disaient alors qu'est-ce que tu fais là, je vais passer en direct à la radio. Comment ? Il y a une AP radio ? Je leur dis, voyez, vous êtes les premiers
oui,
à vous
vrai,
plaindre.
C'est vrai, t'étais pas le seul à.
Vous voyez, on est six. Moi, je suis sûr que après, il y a évidemment un nombre limité. Non, il y a là, une jeunesse, on dit, qui virevolte.
La jeunesse actuellement est atteinte par la maladie de la flemme.
La paresse. C'est assez pénible dans un certain sens. Mais après tout, je le dis de façon cynique, au moins sur Parcoursup, on est avantagé. Contrairement à ceux qui font et ceux qui ne font rien. Donc je dis, continuez à ne rien faire, c'est pas grave. Non, je plaisante. Engagez-vous les jeunes, engagez-vous.
Et allez. Si c'était le mot de la fin alors ?
Eh bien pourquoi pas ?
Bien sûr.
Moi je dis pas non.
Et bien on dit non tous au revoir.
Au revoir.
Allez, bye bye.
Salut, ciao. Au revoir.